Pour commencer cette nouvelle explication de l'univers, il faut pousser nos divisions plus loin que nous ne l'avons fait jusqu'ici. Nous avions alors distingué deux espèces. Il faut à présent en faire voir une troisième. Les deux premières nous ont suffi pour notre première exposition. L'une, intelligible et toujours la même, était supposée être le modèle. La deuxième, soumise au devenir invisible, était la copie de ce modèle. Nous n'avons pas alors distingué de troisième espèce. Ces deux-là semblant nous suffire. Mais à présent, la suite du discours semble nous contraindre à tenter de mettre en lumière par des paroles une espèce difficile et obscure. Quelles propriétés naturelles faut-il lui attribuer? Celle-ci avant tout. Elle est le réceptacle et pour ainsi dire la nourrice de tout ce qui naît. Voilà la vérité. Mais elle demande à être expliquée plus clairement, et c'est une tâche difficile. Spécialement parce qu'il faut pour cela résoudre d'abord une question embarrassante sur le feu et les autres corps qui vont avec lui. Car il est malaisé de dire de chacun de ces corps lequel il faut réellement appeler eau plutôt que feu, et lequel il faut appeler de tel nom plutôt que de tous à la fois ou de chacun en particulier, pour user d'un terme fidèle et sûr. Comment donc y parviendrons-nous, par quels moyens et dans ces difficultés que pouvons-nous dire de vraisemblable sur ces corps? D'abord, nous voyons que ce que nous appelons eau à présent devient, croyons-nous, en se condensant, des pierres et de la terre. Et qu'en fondant et se dissolvant, ce même élément devient souffle et air. Que l'air enflammé devient feu, et qu'au rebours, le feu contracté et éteint revient à la forme d'air. Que l'air condensé et épaissi se transforme en nuages et en brouillard, et que ceci, comprimé encore davantage, donne de l'eau courante. Que l'eau devient de nouveau de la terre et des pierres, de sorte que les éléments, à ce qu'il semble, se transmettent en cercle la naissance les uns aux autres. Ainsi, puisque nul d'entre eux ne se montre jamais sous la même figure, duquel d'entre eux pouvons-nous affirmer positivement qu'il est telle ou telle chose et non une autre, sans rougir de nous-mêmes? Personne ne le peut. Il est beaucoup plus sûr de s'exprimer à leur sujet de la façon suivante. Voyons-nous un objet passer sans cesse d'un état à un autre, le feu par exemple, ce n'est point cet objet, mais ce qui a toujours cette qualité qu'il faut appeler feu. Ne disons pas non plus que ceci est de l'eau, mais ce qui a toujours cette qualité, et ne parlons jamais d'aucun de ces éléments comme ayant de la stabilité, ce que nous faisons quand nous les désignons par les termes ceci et cela, nous imaginons indiquer quelque chose de déterminé. Car ces éléments sont fuyants, et n'attendent pas qu'on puisse les désigner par ceci et cela, et cet être ou par toute autre expression qui les représente comme permanent. Il ne faut appliquer ces termes à aucun d'eux, mais les réserver à ce qui est toujours tel et circule toujours pareil quand on parle, soit de l'un d'eux, soit de tous ensemble. Ainsi, par exemple, nous appellerons feu ce qui a partout cette qualité, et de même pour tout ce qui est soumis à la génération. Mais ce en quoi chacun des éléments naît et apparaît successivement pour s'évanouir ensuite, cela seul peut être désigné par les expressions ceci et cela. Au contraire, ce qui est de telle ou telle qualité, chaud, blanc ou de toute autre qualité contraire, et tout ce qui en est dérivé, ne sera jamais désigné par le terme cela.